2 Chroniques chapitre 13. 2 Chroniques chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 20. 2 Chroniques chapitre 13, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. La 18e année du règne de Jéroboam, Abija régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Mikayahu, fille d'Oriel de Gibéa, et il y eut la guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants héros. Du haut du mont de Tseraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abija se leva et dit « Écoute-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils pour une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est rébellé contre mon Seigneur. Des gens de rien, des vauriens, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et indécis, et il manqua de fermeté devant eux. Maintenant, vous dites que vous allez l'emporter sur le royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous le veau d'or que Jéroboam vous a fait comme Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes pas vous fait des sacrificateurs comme le peuple des autres pays? Quiconque vient avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être investi, le voilà qui devient sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, l'Éternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons pas abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont les fils d'Aaron et les Lévites sont à l'œuvre. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les rangées de pain sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes car nous observons l'ordre de l'Éternel, notre Dieu. Mais vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes éclatantes pour sonner avec éclat contre vous, fils d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière en faisant opérer un mouvement tournant à une embuscade à ses troupes, étant en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda durent se retourner, ayant à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda lancèrent la clameur et à la clameur des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abija et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et 500 000 d'hommes d'élite tombèrent transpercés parmi ceux d'Israël. Les fils d'Israël furent humiliés en ce temps-là, et les fils de Juda l'emportèrent parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit les villes de Bethel et ses dépendances, Yeshana et ses dépendances, Éphron et ses dépendances. Jéroboam resta sans force du temps de Abija, puis l'Éternel le frappa, et il mourut. Amen. La première chose que nous avons à considérer par ce texte, c'est la position spirituelle qui est bien plus que la position numérique. Si vous faites bien le calcul, on se trouve avec 2 armées et je dirais 2 hommes d'un côté pour 1 de l'autre, quasiment le double. Mais nous allons considérer quelques instants rapidement la position d'Abija. Première chose, sa position géographique. Il est du haut du mont du Tseraïm, qui veut dire double toison de laine, qui fait partie de la montagne d'Ephraïm. Et là, il s'élève et il parle à Jéroboam et à tout Israël. Première chose, dans notre vie, nous avons intérêt toujours à être dans la bonne position spirituelle. Et à savoir que la première chose qui doit être sur notre cœur, ça doit être celle de parler, agir et œuvrer selon le conseil de Dieu. Deuxième chose, spirituellement, on voit que Abija, il est dans cette attitude, ainsi que le peuple, d'obéissance et de disposition envers Dieu. Il est là parce que la royauté est celle de Dieu, la royauté divine, et autant qu'enfant de Dieu. Je crois que nous ne devons jamais oublier qui est notre roi et agir en qualité de fils et fille du roi. Notre attitude, nos paroles, nos actes doivent toujours être le reflet de celui qui est le roi de rois et qui règne dans notre vie, pour que ne jamais nous puissions être de scandale à ceux qui entendent nos propos. On le voit dans le texte, au verset 10, il dit nous, l'Éternel est notre Dieu. Nous ne l'avons pas abandonné. Il y a une attitude et un amour pour Dieu, un service. Alors nous, on pourrait se dire, oui, mais il y a des rituels. Mais vous savez, le rituel, s'il n'y a pas de foi, ça ne sert à rien. Et la réalité, ça ne voit pas dans la vie de tous les jours. On pourrait se dire, mais si je lis la Bible tous les jours, je tombe dans du rituel. Sauf que le jour où tu devras faire face aux difficultés, aux problèmes, tu verras qu'en effet, tu as musclé ta foi. Tu as nourri ta foi. Ce n'est pas un rituel, c'est juste une manière de vivre véritablement notre foi et notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, ce qu'ils mettent en avant, c'est leur relation et leur obéissance à Dieu. Peut-être qu'il y a des jours, ils se seraient dit, ben, ce soir, je suis trop fatigué pour aller allumer la lampe dans le temple. Ce soir, je suis trop fatigué pour amener à placer les pains sur la table. Ça arrive parfois qu'on est fatigué, hein. On se dit, ce soir, je suis trop fatigué pour aller à la réunion. Mais là, on voit que c'était un engagement. À quelque part, c'était se donner à Dieu. Militairement, seulement 400 000 soldats, mais avant tout, et surtout, l'Éternel. Parfois, les chiffres peuvent nous faire craindre, n'est-ce pas ? Parfois, les chiffres peuvent nous faire penser que la défaite, elle est là. Mais on voit que le langage et l'attitude de foi de ce roi est celle de les avertir et leur dire « Ne faites pas la guerre à l'Éternel ». Il n'est pas en train de dire « Ne venez pas me faire la guerre ». Quoi que le monde fasse, quand il s'attaque au peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'attaque. Et croyez-le que quand quelqu'un vient et s'en prend un enfant de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de ses enfants. On l'a déjà vu et je crois que nous pouvons mettre une espérance ferme et réelle dans les promesses de Dieu. Mais on va revenir sur ça. La position de Jéroboam. Géographiquement, il se met de manière à pouvoir prendre en étau, en tenaille, hein, le peuple qui est en face de lui. D'ailleurs, on le voit à certains moments, il agit pour attaquer de l'avant et de l'arrière. La manière de l'homme, la manière de l'ennemi, la manière du malin est celle d'essayer d'attaquer de front, mais très souvent derrière le dos. Et face à cette situation, on peut se dire, mais le combat est déséquilibré. 800 000 hommes, ça veut dire 400 000 d'un côté, 400 000 de l'autre. Ce n'est pas évident de se retrouver dans une telle situation. Deuxième chose, c'est la position spirituelle. Il est dans la désobéissance, il est dans la rébellion, il est dans l'idolâtrie. Il est soumis à la royauté satanique et charnelle. Et cela, il l'emportera jamais. Quel qu'il soit le combat, il l'emportera jamais vis-à-vis de Dieu. Satan a des pouvoirs, certes, mais bien limités par rapport à l'autorité et la puissance de Dieu. D'ailleurs, je crois que chacun d'entre nous a le souvenir de ce texte qui dit que nous a été donné autorité sur le serpent, le scorpion. Et quoi le reste? Qu'est-ce qu'il dit? Et toutes les puissances de l'ennemi. Il ne dit pas une partie, pas 10%, pas 50, pas 30, non, pas 60, non. Toutes les puissances de l'ennemi. Et cela ne doit pas nous faire devenir, excusez-moi, des fanfarons spirituels, parce qu'on a beau dire des choses, mais si notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, excusez-moi, nous sommes ridicules. Mais il est question pour nous d'une véritable consécration à Dieu et une véritable obéissance à Dieu. Cet homme, il est entouré de mauvais conseillers. D'ailleurs, le texte nous dit que même son nom prédécesseur, il avait mis autour de lui des gens de rien, des vauriens, des personnes qui se sont rassemblées auprès de lui, qui l'ont porté sur lui parce que, pourquoi ? Il était indécis. Que Dieu nous garde de l'indécision. Que Dieu nous garde de tomber dans cette relation où nous faisons plus de confiance à ceux qui nous entourent et qui sont dans le monde qu'à Dieu lui-même. D'ailleurs, la défaite a été de suite. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'était pas confié en l'Éternel. On voit qu'il s'était donné pleinement à l'idolâtrie. Il s'était même fait un dieu, un veau d'or. Ça ne va pas ramener quelque chose de plus, mais je me suis rendu compte, et je crois que vous l'avez vu, les hommes cherchent à se créer des dieux. Je suis étonné à chaque fois qu'il y a une situation particulière, un homme du spectacle, un homme du sport. Ils en parlent pendant des jours. Il est décédé. Un homme grand, merveilleux. Alors, moi, je ne viens pas sur les faits. Ce n'est pas ça mon propos. Mais parfois, on a tendance à mettre les hommes à une hauteur, à une position que nous ne pourrons jamais atteindre parce que Dieu, il y en a un seul. Et il est important pour nous de faire attention. Parfois, on peut avoir tendance à donner, excusez-moi, plus de crédibilité aux hommes qu'à Dieu lui-même. Parfois, et là je vais contre ce que je devrais dire, dans le sens que parfois on donne plus de crédit au pasteur qu'à Dieu lui-même. Et ça, c'est une grave erreur. Faisons attention. Soyons attentifs à ce que Dieu nous demande et jamais mettre quoi que ce soit ou qui que ce soit au-dessus de celui qui seul a cette place qui lui revient autant que Dieu. On voit qu'il agit de manière fourbe, sournoise, et en plus il est heureux parce que militairement il a 800 000 hommes d'élite. Vous avez bien vu le texte et il dit quoi encore ? 800 000 hommes d'élite et après vaillants héros. Ça veut dire que c'est des hommes qui ont déjà fait preuve de leur capacité au combat. Moi, je les imagine en train de marcher, hein, le torse bien bondé, hein, tout qui brille. On est 800 000, ils sont 400 000, c'est déjà réglé dès le départ. Et bien souvent, l'ennemi a fait ce type de calcul. Mais attention, je crois qu'il y a des choses à tenir bien en tête. Et on va les voir tout de suite. La foi et la prière qui font appel aux promesses de Dieu, ce sont une véritable puissance face aux attaques. La foi et la prière qui font appel aux promesses de Dieu. D'ailleurs, quelle a été la réaction ? Dès qu'ils se sont vus attaquer, ils crièrent à l'Éternel. Les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. C'était une manière de appeler au combat, mais en même temps, c'était une manière de dire, nous proclamons que Dieu est celui qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Et les hommes de Juda lancèrent la clameur, et la clameur des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ils ne sont pas juste amusés à crier pour crier. Parce que vous savez, on peut crier, on ne va pas régler quoi que ce soit. Ils parlent de clameur. Ça veut dire qu'ils ont commencé à acclamer Dieu et la victoire de l'Éternel, et encore, ils n'étaient pas en train de rentrer en combat. Ça commençait. Sommes-nous capables d'acclamer la victoire de Dieu avant, pendant et après le combat ? Parce que c'est au moment où ils ont commencé à acclamer l'Éternel, que l'Éternel a agi. Alors certes, c'est bien d'apporter nos sujets de prière à Dieu, mais commençons par lui rendre gloire. Commençons par acclamer que Christ est vainqueur. Non pas parce qu'on a besoin d'être convaincu, mais parce qu'on l'est. Êtes-vous convaincu? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À l'infini? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, je crois qu'il n'y a pas combat que Dieu ne peut pas relever, n'est-ce pas? Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Le son de la trompette, il est question de marcher, c'est un appel à la marche, dans l'unité, et répondre ensemble au combat. Si nous nous retrouvons ensemble pour prier, il est question pour nous, et cette invitation, elle est très souvent dans la parole de Dieu, Dieu nous invite à l'unité véritable, ce que deux ou trois s'assemblent pour demander. On peut être dans le même lieu sans être unis. Mais il est question là d'unité, et c'est là que Dieu intervient. Acclamer Dieu. Pour vivre la victoire, frères et sœurs, il faut accepter de livrer bataille, même quand les statistiques nous donnent perdant. Peut-être qu'en voyant la foule qu'il y avait devant eux, derrière eux, il y en a qui ont commencé à transpirer un peu. Non ? On aurait fait quoi, nous, à leur place ? Pas de doute. Soyons vrais, combien de fois le nombre peut nous mettre une certaine crainte, une certaine pression. Et c'est là d'autant plus que nous avons besoin de nous recueillir et de faire appel à Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. J'arrive à la fin et vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier parce que très souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous mène dans un combat. Et on considère qu'en effet, tout est lié à notre propre personne. Mais ce qui va se passer dans cette bataille, c'est que Dieu va régler le problème, pas seulement pour ces hommes qui se sont placés sous l'autorité, sous la puissance, et dont la foi fait preuve de courage, non ? Mais il va aller plus loin. Et je crois que les combats dans lesquels Dieu permet que nous soyons, frères et sœurs, oui, amener malgré nous, parce que je crois que personne n'a envie d'aller vivre des combats, non ? On en a déjà assez, et ils viennent tout seuls. Mais là, dans le cas présent, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Verset 18, il dit « Les fils d'Israël furent humiliés en ce temps-là, et les fils de Juda l'emportèrent parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. » Alors, si je peux ce soir vous encourager en vous disant quelque chose, c'est appuyez-vous sur l'Éternel. Appuyez-vous sur Dieu. Alors, Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes. Bethel et ses dépendances. Yeshana et ses dépendances. Éphron et ses dépendances. Jéroboam resta sans force du temps d'Abija, puis l'Éternel le frappa et il mourut. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit par là, par ces trois villes ? Nous, peut-être qu'on se dit, mais c'est pas grand-chose, bon. Mais pas seulement Dieu leur a accordé la victoire sur 800 000 hommes, mais Dieu leur donne aussi la possibilité de venir libérer des villes qui avaient été prises. Et dans les combats dans lesquels Dieu nous amène, frères et sœurs, il n'y a pas que nous. Je crois que Dieu veut se servir de nous aussi pour la délivrance des autres. Et c'est dans cette vision-là que nous devons avancer dans la prière. Non seulement en disant, mais Seigneur, pourquoi ces combats pour moi ? Seigneur, pourquoi j'ai mérité ces combats ? Mais arrêtons de faire du lombrilisme. Il est question pour nous de comprendre que les combats qui sont devant nous, si Dieu nous y emmène, ça veut dire qu'il a déjà, et ça c'est une certitude, il a déjà vaincu pour nous. Et il nous rend participants de sa victoire. Mais en même temps, nous avons cette responsabilité. Alors j'ai recherché. Très simplement, Bethel, la maison de Dieu. Bethel, c'est le lieu de la vision de Jacob, vous vous rappelez ? Et il est question, à quelque part, de prier pour que Dieu libère ceux qui ont perdu la vision. Ils ont besoin de retrouver la vision. Peut-être ils ne l'ont jamais eu. Ils ont besoin de faire cette expérience avec Dieu, d'une révélation personnelle de Dieu, pour que finalement ils aient une vraie vision de qui est Dieu. Et c'est de notre responsabilité, n'est-ce pas? Deuxième ville, Eshana, qui veut dire vieux, au magasinage, c'est le lieu où Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et l'appela du nom d'Ebénézer, qui veut dire la pierre du secours, en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette ville, elle avait besoin de finalement revenir à la divine ressource. Il y a des personnes qui ont perdu cette ressource qui est Christ. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a peut-être réussi à les piéger. Nous avons connu des hommes et des femmes qui se sont donnés au Seigneur et qui malheureusement, ils ont fait le choix de lâcher la main de Dieu. Et si le Seigneur voulait qu'on les amène à nouveau dans la prière, ce n'est pas de notre responsabilité. Est-ce qu'on peut se satisfaire de dire « mais c'est pas grave, l'Église, elle grandit quand même ». Non ! Moi, je crois que jamais on pourra se satisfaire de dire « on en a perdu 10 ou 20, c'est pas grave ». Non ! Une âme ! Une âme ! Moi, je suis malheureux quand je vois une âme s'éloigner du Seigneur. Et j'imagine que si mon cœur pleure, qu'est-ce que ça doit être le cœur de Dieu ? Parce que c'est son enfant. C'est pour lui que Christ a donné sa vie, comme il l'a donné pour moi. Alors, que Dieu nous donne, frères et sœurs, à nouveau, de ramener des âmes à redécouvrir la divine ressource. Dieu est une ressource inépuisable. Christ est ce rocher qui est notre secours. Et celui qui se confie en Jésus-Christ sera sauvé, délivré, guéri, relevé, adopté. Oui, par le Père. Amen. Et il y en a beaucoup qui ont besoin. Éphron, j'arrive vraiment à la fin. Éphron, Éphraïm, il est question de fécondité, il est question de bénédiction. Je vous rappelle que Éphraïm était un des deux noms des fils de Joseph. Et au moment de la bénédiction, son père Jacob va inverser les mains et Joseph, il va lui dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» Sauf que la bénédiction que Dieu avait prévue pour Éphraïm était particulière. Et il dit « mais Éphraïm sera le plus grand ». Ce même lieu est le lieu natal de Gédéon. Ça vous parle ? Non ? Qu'est-ce qu'il a fait Gédéon ? C'est ce lieu-là où Dieu lui adresse sa vocation. C'est ce même lieu où il va bâtir un autel à l'Éternel. Frères et sœurs, il y en a qui doivent retrouver ou découvrir, connaître la bénédiction et la vocation. Alors on pourrait se dire trois villes. C'est peu trois villes ? Combien serions-nous heureux déjà d'en gagner une ? Et si Dieu nous offre d'en gagner trois ? Oui ou non ? Ah ben ça dépend de vous, hein, si ça vous fait peur, le nombre, non ? Il est question pour nous de dire, Seigneur, change notre vision dans la prière et dans le combat. On ne combat pas que pour nous. Ça ne veut pas dire que le jour où moi, mon problème est réglé, je n'ai plus besoin de combattre. Ça ne veut pas dire que quand je vois que la situation est mal engagée, je me retire du combat. Mais ça veut dire que je proclame et je vis selon cette pensée, l'Éternel est notre Dieu. Et avec ça, tout est dit. On va aller dans la prière et on va demander au Seigneur, celui qui est notre Dieu, d'intervenir dans les problèmes et les difficultés que chacun d'entre nous vit, dans les combats qui sont les nôtres. Amen. Mais croyons aussi que dans ces combats, Dieu vous nous accordez bien plus que la victoire personnelle. Il y a des âmes qui ont besoin de retrouver la vision, de comprendre, apprendre et retrouver la divine ressource qui est Jésus-Christ Et il est question aussi, finalement, de pouvoir toucher à la véritable bénédiction et à la vocation. Et que Dieu soit glorifié. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons tellement à apprendre. Nous avons besoin, Seigneur, encore, Seigneur, de nous instruire par ta parole, pas seulement pour, Seigneur, grandir dans la connaissance, mais avant tout, Seigneur. Grandir en stature spirituelle, grandir dans notre foi, grandir, Seigneur, dans notre engagement avec toi. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes de prière. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de foi. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui ne font pas les calculs selon la méthode du monde, mais qui se rappellent et qui prononcent à chaque fois l'Éternel est notre Dieu. Seigneur, notre confiance, elle est pleinement en toi. Notre foi, elle est en toi parce que tu es le seul et vrai Dieu. Et Éternel, nous voulons te remettre, Seigneur, tous les sujets. Seigneur, nous voulons te remettre toutes ces âmes qui ont besoin de retrouver la vision, Seigneur, qui ont besoin de retrouver et de connaître Jésus-Christ, qui ont besoin, Seigneur, finalement, d'être touchées par ta bénédiction et que, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur et les amener à une véritable vocation qui est celle de suivre, oh, comme un disciple, celui qui est le Maître divin. Seigneur, merci de nous avoir appelés à cela. Seigneur, merci de nous avoir choisis. Merci, Seigneur, pour toutes les occasions que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir vivre, Seigneur, les victoires que tu as préparées d'avance pour nous. Certes, Seigneur, le combat est rude, le combat est difficile, mais, Seigneur, quand l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous ? Seigneur, merci encore de renouveler la foi de chacun, de renouveler le zèle de chacun, de renouveler, Seigneur, le courage spirituel, Seigneur, de renouveler aussi la vie de l'esprit de chacun, Seigneur, pour que, Seigneur, nous soyons tous, Seigneur, des héros de la foi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous aussi marquer, Seigneur, ce temps, Seigneur, non pas par nous-mêmes, non pas pour nous-mêmes, mais pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, être un exemple pour les générations à venir, pour que nos enfants, Seigneur, pour que les enfants de nos enfants puissent se dire nos parents, nos grands-parents, ceux qui nous ont précédés, ont servi l'Éternel. Seigneur, nous voulons être de ceux qui s'attachent à ta parole, de ceux qui ne vivent pas dans un rituel, mais qui vivent dans une vie de foi, Seigneur, qui se développe et qui grandit jour après jour par cette relation personnel et intime avec toi. Seigneur, merci de ta victoire. Merci de nous avoir, Seigneur, amenés à la victoire par Jésus-Christ. À la croix, Seigneur, l'ennemi a été vaincu. Et c'est par son sang, et c'est par son autorité, et par sa résurrection que nous proclamons que notre Dieu est grand et il est vivant. Amen.